Alors, épisode 8, hein, je crois, ouais, c'est ça. Alors, on a déjà fait le tour de pas mal de choses avec la prospérité, hein. On a déjà parlé des richesses longuement, on a parlé du succès. J'ai parlé de la santé aussi, hein, au mois de juin. Ça me tenait vraiment à cœur d'insister sur cette compréhension d'Ésaïe 53 et pas que, hein, de ce que le Seigneur veut faire dans nos vies et de. Qu'est-ce qu'il pense de la guérison en fait, hein? Qu'est-ce qu'on lit de la guérison dans la parole? Et on va aller vers d'autres choses aujourd'hui, donc plus vers la compréhension de la foi selon la prospérité. Je vais vous lire juste une étude biblique qui n'est pas de moi, hein, et qu'on ne peut plus retrouver sur Internet parce que ça bouge beaucoup, des fois des choses qui pensent qu'ils sont pointées du doigt et les gens les retirent du site. Mais voilà, ça vient de Creflo Dollar, donc qui est un des prédicateurs en vue de la prospérité, hein, qui vieillit maintenant, il y a des jeunes qui arrivent, mais. Donc, qui nous dit, en tant que justice de Dieu, votre héritage de richesse et de biens est inclus dans les bénédictions spirituelles, ou biens spirituels, dont l'apôtre Paul a parlé dans Éphésiens 1, 5. D'après le psaume 112, verset 3, justice, prospérité et richesse vont de pair. Vous avez parfaitement le droit de posséder des biens matériels, vêtements, bijoux, maisons, voitures et argent en abondance. C'est cette richesse qui non seulement répond à vos besoins, surtout, hein, préciser, mais qui diffuse aussi le message de l'Évangile et répond aux besoins des autres. La Bible dit que les richesses sont réservées aux justes, c'est Proverbe 13, 22. Cependant, elles resteront réservées jusqu'à ce que vous les réclamiez. Et donc c'est le point que je vais aborder aujourd'hui, hein. Elles resteront réservées jusqu'à ce que vous les réclamiez. Alors réclamez-les maintenant. Vous avez le pouvoir de saisir et de commander que les richesses et les biens viennent à vous. C'est Deutéronome 8, 18. Exercez ce pouvoir en prononçant quotidiennement des paroles pleines de foi et en prenant des mesures concrètes pour éradiquer vos dettes. Comme Dieu, vous pouvez amener à l'existence des bénédictions spirituelles par votre parole. Romains 4, 17. Rappelez-vous, le doute garde le silence, mais la foi parle. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là-dedans, hein. Il y a des choses qu'on a déjà abordées. Je ne vais pas m'amuser à reprendre chaque verset et montrer comment ça a été détourné, hein, mais en général, l'étude biblique va pas très loin, hein. Quand on lit le passage, on voit tout de suite que ça a été complètement détourné de son sens premier. Mais je voulais insister sur cette compréhension de la foi, en fait, chez les prédicateurs de la prospérité. Et en fait, ça se base sur un mouvement qui est antérieur à la prospérité, qui est le mouvement de la parole de foi. C'est Word of Faith en anglais, on entend beaucoup, hein. On l'entend moins, un peu moins en français. Et voilà, c'est une doctrine en fait qui est à la source de la prospérité. Les prédicateurs de la prospérité, ils basent leur discours sur la foi, sur plusieurs concepts. Alors on va voir un premier aujourd'hui et on verra les suivants les fois prochaines. Vous êtes prévenus, on va aller jusqu'à 10 au moins. Donc il y a ces concepts-là qui font partie du mouvement parole de foi et donc de la doctrine de prospérité. Il faut mettre en œuvre sa foi par une parole qui proclame. Le deuxième, c'est la foi est une force créatrice. Et le troisième, nous sommes des petits dieux. Deux et trois, on les verra plus tard, hein. Mais voilà, aujourd'hui, il faut mettre en œuvre sa foi par une parole qui proclame. Alors, les prédicateurs de la prospérité se servent souvent d'Hébreux 11, verset 1, pour justifier la parole de foi. En fait, ils utilisent ce verset. Alors, vous allez me dire, quand on lit, on ne comprend pas forcément, hein. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On voit bien un peu comment on peut le détourner, hein, quand même. Et voilà, on espère des choses, et ben voilà, ça, grâce à la foi, ça devient réalité, quoi. Et c'est un peu ça, en fait, parce que le mot qui est derrière ce que nous, on dit une ferme assurance des choses qu'on espère, le mot, il peut être traduit aussi par fondement ou substance. C'est hypostasis, pour ceux qui ont fait grec en LV1, LV2. Moi, j'ai fait allemand et latin, c'est dommage, il n'y a pas de Bible en latin. Donc, hypostasis, c'est aussi la substance. Et donc, la foi, c'est la substance des choses qu'on espère. C'est l'application, en fait, c'est ce qui va rendre à la réalité ce qu'on espère. C'est comme ça que c'est utilisé Hébreux 11, verset 1. Je vous lis un petit texte de Gloria Copeland, hein, qui nous dit donc, comme le dit Hébreux 11, verset 1, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. La foi est la force spirituelle qui permet aux bénédictions que Dieu nous a promises dans la Bible de se manifester dans le domaine naturel. Quelles que soient les choses que l'on espère, qu'il s'agisse de guérison, de finances, d'une nouvelle maison ou d'une nouvelle voiture, la foi transforme cet espoir en une substance tangible, en quelque chose que nous pouvons toucher, dépenser et conduire. Terrible hein, de détourner les versets comme ça. Et voilà, donc ça vous montre juste hein, comment les gens utilisent ces versets. Et, bon, moi, j'avais jamais compris Hébreux 11.1 comme ça, hein, personnellement. Il n'y a rien qui parle de richesse, il n'y a rien qui parle de choses matérielles en Hébreux 11.1. D'accord ? Donc, le faire dire ça à ce verset, ça n'a pas de sens, c'est sorti de nulle part. Et on va, en fait, on va revenir aux fondamentaux, hein, lire un petit peu avant et un petit peu après. Et on va se rendre compte que ça ne suit pas tout à fait cette interprétation-là. D'accord ? Si on lit le livre aux Hébreux, on se rend compte que l'auteur, il n'enseigne pas à ses lecteurs comment utiliser la foi pour changer les circonstances. Il dit, par la foi, vous allez traverser les circonstances et vous allez rester debout, spirituellement, pas forcément physiquement. En Hébreux 10, versets 32 à 39, donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous dit, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé, comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. J'ai souligné, dans ma diapo aussi. Donc, après être venu à la foi, les gens à qui s'adresse l'Épître ont soutenu un grand combat au milieu des souffrances. On leur dit qu'ils ont été comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations. Et on dit qu'ils sont même associés à ceux qui souffraient ça aussi. Et on nous dit qu'ils ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens, sachant qu'il y en avait des meilleurs qui arrivaient. Donc ils ont pas, on leur dit pas, voilà, la foi c'est quelque chose qui va vous amener toutes les richesses. On dit, voilà, par la foi, vous avez perdu beaucoup de choses, mais vous avez accepté ça avec joie, parce que vous savez qu'il y a quelque chose de mieux après, en fait. Et le mieux, rien nous dit que c'est sonnant et trébuchant, d'accord ? On le verra ça encore un peu plus loin. La suite de ce verset-là, quand même, de ce passage-là, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Dans ces versets-là, hein, sans aller dans le détail, on sent que voilà, il y a des épreuves et la foi, elle est là pour vous aider à persévérer dans les épreuves. Pas à faire disparaître par magie l'épreuve et que tout aille bien et que vous soyez riche, en bonne santé et tout ça, mais à persévérer dans l'épreuve et attendre celui qui doit venir, Jésus-Christ. Et on voit bien, encore un peu de temps, il y a encore quelque chose qui n'est pas fait en fait. Hein. On attend certaines choses, on attend l'accomplissement de certaines promesses. On n'a pas encore tout comme ça, comme les prédicateurs veulent nous le dire. Il suffit de le proclamer et voilà, je l'ai. La foi dont il est question en Hébreux 10 et 11, elle permet aux chrétiens de voir au-delà de leurs souffrances présentes, de voir la réalité de l'éternité qui est derrière, en fait. C'est ça, la foi, l'espérance de ce qu'on ne voit pas encore. Ce qu'on ne voit pas encore, c'est le royaume de Dieu pleinement établi. Ça va se faire, mais il faut encore attendre un petit peu. Mais par la foi, on le voit. Hébreux 11 nous donne l'exemple de Moïse. Au verset 24 et 26, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Et là encore, la rémunération, c'est pas l'argent, hein, c'est évident dans ce verset-là. Moïse, il a laissé tomber tout ce qui pouvait être des richesses de l'Égypte et était bien placé pour en bénéficier, hein, puisqu'il avait été élevé auprès de Pharaon, il pouvait bénéficier de tout ce qui était à la cour de Pharaon, mais on nous dit il les a regardés, il a regardé l'opprobre de Christ comme plus grand que ça encore. La honte d'être à Christ, plus grand que toutes ses richesses. Vous voyez que par la foi, il a fait ça. Donc ce n'est pas du tout ce qu'on nous dit de par la foi, on va appeler des richesses. Au contraire, par la foi, il a refusé les richesses. Il a vu ce qu'il attendait plus tard, en fait, plus loin. En fait, c'est le témoignage de Moïse là-dedans, mais en Hébreux 11, c'est le témoignage de la plupart des témoins de la foi. Quand on reprend Hébreux 11, c'est un peu avant, en fait, hein, je fais dans le désordre. Au verset 14 et 16, « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Donc c'est ce que je vous disais avant, en fait. Hein, notre espérance, c'est le royaume de Dieu, c'est la cité que Dieu a préparée, c'est d'être dans sa présence avant tout, en fait. Avant tout le reste, c'est le connaître et être directement à son contact avec lui. Plus loin encore, dans Hébreux 11, au verset 32 à 40, on voit que certains ont effectivement fait des prodiges par la foi. On va lire juste après, hein. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc si on veut faire prédicateur de la prospérité, je vais faire une petite formation maintenant que je connais bien, on lirait que cette partie-là en fait. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection. Il faut mettre un point. Voilà la foi, ce que ça permet de faire. C'est vendeur comme ça, hein. Mais en fait, ce n'est pas un point après ça. C'est un point virgule et le passage y continue. Et quand c'est comme ça, il faut lire la suite. C'est un peu long, hein, mais je l'ai laissé sur une diapo. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Et voyez que ces gens qui ont fait des choses extraordinaires, et ces gens, on a l'impression que ça a été la galère, hein, plus qu'autre chose, ils sont dans le même paquet. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage. Et ils sont tous dans le même paquet parce que tous ont attendu quelque chose de plus, en fait. Et le quelque chose de plus, on en revient, hein, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. On attend ça, hein, et on n'y est pas à la perfection, personne n'y est encore. Mais quand on va rejoindre le Seigneur, là, il va nous rendre parfaits à son image. Mais on n'y est pas encore. En fait, ce chapitre des Hébreux 11, il nous permet de souligner un point, alors c'est un point de théologie, hein, mais vous connaissez le principe, c'est que il y a le déjà et le pas encore. Il y a des choses dans la Bible où c'est déjà accompli, mais pas encore tout à fait. Et on le retrouve à plein de choses en fait, hein. On est rendu parfait en Christ et pourtant si on nous regarde, on n'est pas parfait, on pêche encore. Et on va être parfait en Christ pleinement quand on va le rencontrer. Ça s'applique à beaucoup de choses en fait. Et le problème des prédicateurs de la prospérité, c'est qu'ils vont lire les promesses et tout appliquer tout de suite, dire voilà, tout ça c'est accompli pour nous, on en bénéficie. Mais ils oublient qu'il y a toute une partie des promesses dans la parole qui s'applique plus tard, pleinement plus tard. Ils oublient aussi que ça s'applique souvent pas matériellement et concrètement, mais spirituellement. Ça, on en a déjà parlé longuement. Le Nouveau Testament, quand on le lit, il nous décrit le temps de maintenant, aujourd'hui, le temps présent, comme un intermédiaire, en fait, entre l'inauguration qui a été faite par le Seigneur Jésus, quand il est descendu, il a commencé quelque chose, hein, et la pleine réalisation, quand il va revenir. Et on est dans cet entre-deux, en fait. C'est pour ça qu'il y a déjà des choses qui ont été faites, mais c'est pas encore terminé. Le passage de Romains 8, versets 18 à 25, il montre bien ce décalage en fait entre le présent et ce qui reste encore à venir. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. On pourrait presque s'arrêter là en vrai. Hein. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'insiste bien, hein, c'est à venir et sera révélée pour nous. On n'est pas encore dans un état glorieux comme il y aura après quand on sera auprès du Seigneur. Aussi, la création attend-elle ? Là aussi, j'ai souligné parce qu'elle attend, ce n'est pas encore fait. Elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. C'est l'espérance, et là aussi c'est un futur qui est utilisé. Elle sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. On a un début de quelque chose avec l'esprit, mais ça sera pleinement accompli quand on sera auprès de lui, encore une fois. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et ça, on en a parlé quand on a parlé de guérison. Hein. La guérison, elle n'est pas automatique dans la Bible, pas comme les antibiotiques, elle n'est pas systématique. Le Seigneur accorde encore sa guérison, il fait encore des miracles, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il n'y a aucun problème pour lui à le faire, aucune limitation. Mais ce n'est pas systématique. On ne lit jamais ça dans la Bible, en fait. C'est en fonction de sa souveraineté, de ce que lui décide, de tout un tas de choses qui nous échappent complètement. La rédemption de notre corps, elle arrivera définitivement à notre mort ou quand lui reviendra. Le problème, c'est quand on écoute la prospérité, on a l'impression que voilà, c'est pour tout de suite, on va être en pleine santé maintenant, et voilà. Et on revient, hein, c'est pour tout de suite, c'est déjà accompli. Et c'est pas vrai, ça. On voit bien dans ce passage-là de Romains. Hein. Et la suite, elle est tout aussi claire. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. On est sauvés. Mais c'est en espérance aussi, parce qu'en fait, il y a encore quelque chose qui n'est pas terminé, quelque part. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Voilà. Si on écoute les docteurs de la prospérité, c'est tout est là, tout est maintenant, et en fait, il n'y a plus d'espérance. C'est ça que répond presque Paul à ces gens-là. Hein. Il leur dit, mais si vous le voyez déjà, c'est plus une espérance. Il n'y a plus rien là. Il n'y a même plus de foi, en fait. Il n'y a plus de confiance. Aux Corinthiens, Paul il va justement leur reprocher de commencer à régner sans lui. Vous avez déjà tout, sans moi. C'est 1 Corinthiens 4. Il leur dit « Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner, en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. » Paul, il manquait sacrément de foi, hein, quand même. Il aurait dû proclamer avec foi tout ça. Il aurait eu tout ce qu'il fallait pour accomplir son ministère, n'est-ce pas ? Nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Là aussi, hein, on est loin de la proclamation avec puissance que tout m'appartient et que je peux, si j'ai besoin de quelque chose, hop, suffit de le dire. Ce n'est pas du tout cette foi-là dont il est question, hein, vous voyez. Ça rejoint cette foi qu'on a lue en hébreu, en fait, en hébreu 10 et 11. De gens qui ont subi toutes sortes de choses, lui, ceux qui l'accompagnaient, et qui persévéraient, qui continuaient par la foi, parce que justement, ils voyaient plus loin que ce qui était en train de se passer devant leurs yeux. Le règne de Jésus lui-même, il a ce caractère-là, en fait, de déjà et de pas encore. Dieu y règne, mais ce n'est pas encore le règne final, en fait. Le règne messianique, le règne de Jésus, il a commencé avec Jésus qui est remonté au ciel, en fait. Il est sur le trône, il est à côté de Dieu et il règne, on nous le dit dans la parole. Et pour autant, c'est pas complètement terminé. Il y a quelque chose qui va se terminer à la fin. En 1 Corinthiens 15, on nous dit « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » Donc il règne déjà, mais tous ses ennemis ne sont pas encore sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Lorsque toutes choses lui auront été soumises, encore une fois, hein, c'est un futur, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. En Hébreux 2, 8, ça rejoint ce qu'on peut percevoir nous aussi assez naturellement, en fait, hein, ce qu'on dit « Dieu règne ». Bah, regardez le monde autour de vous. Ah oui, Dieu règne, mais on n'en voit pas encore les effets partout, en fait. Et en Hébreux 2, verset 8, donc il dit « Tu as mis toutes choses sous ses pieds ». Ça vous dit bien, hein, il est au-dessus de tout, il règne. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Donc ce n'est pas une invention de nous, on dit on manque de foi, on ne voit pas assez Dieu. Non, non, il y a un côté, il est déjà en train de régner, et il y a un côté, il va régner totalement, pleinement, à la fin des temps. On va bifurquer un tout petit peu, je pense que là vous avez compris l'idée, hein, entre le déjà et le pas encore, et le défaut de la prospérité qui est de dire on a tout maintenant, et il suffit de le proclamer. Donc les théologiens de la prospérité, ils affirment que la foi, elle doit se fonder sur les promesses de Dieu. Alors c'est facile, hein, vous prenez un verset qui vous arrange, et puis voilà, vous trouvez une promesse, et c'est bon, il n'y a plus qu'à l'accomplir. Et il y a des versets, ben, on revient sur nos sujets, hein, mais voilà, hein, sur la richesse, le succès, sur le fait d'avoir de l'autorité, sur tout un tas de choses, vous pouvez trouver un verset qui va dans le bon sens. Voilà, c'est une promesse de Dieu, suffit de le proclamer avec assez de foi, et du coup je vais l'obtenir. Et on est toujours en train de dévier des passages qui ne disaient pas ça initialement. Mais l'idée, c'est de mettre en œuvre votre foi par une parole qui proclame avec autorité. On en parlait avec Micheline tout à l'heure, hein, mais elle ne le savait pas. C'est une proclamation qu'on a quelque chose. Et on voit ce qui était dit tout à l'heure, hein, par Gloria Copeland ou Creflo Dollard, mais ils le disent tous. Hein. Il faut proclamer pour que les choses elles viennent à la réalité, en fait. Alors on y reviendra la fois prochaine, hein, parce que sinon il y a trop de choses à dire, mais il y a vraiment l'idée que derrière, j'ai un pouvoir par moi-même, en fait. Et ça, c'est pas biblique. La foi, elle vient de Dieu, c'est lui qui donne toutes choses, c'est lui qui accomplit, et c'est pas nous qui avons un pouvoir comme ça, surréaliste, de faire des choses. Mais l'idée, c'est de proclamer. Il faut proclamer, ça fait partie du système, en fait, qui est comme ça. Vous devez proclamer une parole de foi face à toute maladie, tout handicap, parce que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Ça, c'est le discours de la prospérité. Et ça, c'est destructeur, parce que si vous n'obtenez pas guérison, c'est que vous n'avez pas assez proclamé, vous n'avez pas assez de foi, il y a un problème chez vous. On y revient, c'est tout le temps l'autre qui est en défaut, ce n'est pas la doctrine. Alors, c'est Kenneth Copeland, monsieur. Cette prière traditionnelle, « Seigneur, si c'est ta volonté, fera que vous mourrez de façon prématurée. » C'est violent, hein? Par conséquent, prier de cette manière montre que vous n'avez pas lu votre Bible. On est complètement à l'envers là, complètement. Et que vous ignorez tout de Dieu et de sa volonté. C'est toujours sa volonté de guérir. Ça, c'était sur son site il n'y a encore pas très longtemps. Incroyable de retourner les choses comme ça. Si vous dites « Seigneur, si c'est ta volonté, fais quelque chose », on prie souvent ça, hein, Dieu voulant, DV, dans les courriers. Alors, il ne faut pas que ça devienne une superstition non plus, hein, mais c'est bien de soumettre les choses au Seigneur, dire « voilà, je ne suis pas sûr de la volonté du Seigneur dans cette situation-là. Je prie, Seigneur, si c'est ta volonté, sinon, fais autre chose. » Et là, il nous dit, voilà, si vous dites ça, c'est que vous avez le doute, en gros, et donc vous n'obtiendrez rien. Vous mourrez de façon prématurée, qui dit ça. Il faut proclamer et il faut croire, en fait. Ça, c'est la règle dans la doctrine de prospérité. Et la mise en œuvre de votre foi, elle se traduit par la proclamation et par un petit geste. C'est nécessaire. Ah, aux serviteurs de Dieu, bien sûr. Je dis pas ça parce que je suis là. Et les bénédictions, elles suivent les règles qu'on a vues les fois d'avant. La doctrine de... Pas la doctrine. Je l'ai perdu. La loi de la compensation et la loi du centuple. Si vous donnez à un, le Seigneur, il vous rend à 100. Voilà. On a déjà fait le tour, hein, de ces questions-là. Je vous renvoie vers les messages d'avant. Mais c'est un système, en fait. C'est comme ça. Vous devez proclamer, vous devez agir, donner, préférentiellement. Et le Seigneur, il vous répond. Et ça, c'est juste une mécanique, en fait. Il n'y a pas de foi là-dedans, en vrai. Hein. Il n'y a pas d'espérance, il n'y a rien de surnaturel. C'est juste une mécanique qu'on vous apprend, et il faut obéir à ça. Encore une petite citation, Kenneth Hagin. « En tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes pas un mendiant. Vous êtes l'héritier du roi. Déclarez la bénédiction, ne la suppliez pas. Quand vous priez, parlez à votre montagne, pas à Dieu. Ordonnez-lui de se jeter à la mer. » Alors c'est vrai qu'on n'est pas des mendiants et qu'on est hérité du roi, mais ça ne fait pas de nous des demi-dieux en fait, hein, ça ne fait pas de nous des gens qui font tout. Ça aussi, hein, c'est la doctrine des petits dieux dans la prospérité. Voilà. Là, on sent vraiment l'idée de « c'est moi qui déclare, je parle à la montagne et c'est par ma parole que ça va se déplacer. » Vous voyez, quand vous priez, parlez à la montagne, pas à Dieu. Et on peut vite dériver comme ça en fait dans nos prières aussi, hein, prier et au nom de Dieu, j'ordonne que si, j'ordonne que ça. Bon. J'avoue que je préfère prier Dieu et dire « Seigneur, toi, fais les choses » que moi, d'un seul coup, de prendre autorité. Ça peut arriver, des cas très précis où le Seigneur prend autorité, dis-le, déclare-le. D'accord ? Mais ce n'est pas une règle, ce n'est pas quelque chose de systématique comme on retrouve là, en fait. Et surtout, je pense qu'on doit avoir bien conscience que la puissance, elle n'est pas de notre côté, en fait. Hein. Que c'est le Seigneur qui fait quoi qu'il arrive. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui fait. Nous, on n'a rien. Hein. S'il retire son souffle, on est mort et point barre, ça s'arrête. Les théologiens de la prospérité, ils aiment bien s'appuyer sur Marc 11. Alors, ne me demandez pas de le justifier. Hein. Moi, je ne comprends pas surtout comment on arrive à déduire ça de Marc 11. Voilà, il y a des éléments, on les comprend vaguement. Quoi, mais... Donc Jésus, il dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez, ce langage de la prospérité, c'est ça, en fait, derrière. On utilise ce passage-là, et en fait, on en déduit une règle. Alors, la règle, je ne me souviens plus exactement comment elle est venue, c'est partie interprétation de Marc 11, partie une révélation divine, je ne sais plus lequel de ces gens-là, de cette règle pour obtenir des choses. Voilà, Dieu est intervenu pour communiquer sa parole à un serviteur de la prospérité. Et il dit, voilà, la règle, pour une foi efficace, c'est celle-là. Dites-le, donc il faut le proclamer, qu'on le possède déjà, en fait. Dites-le, dites que vous l'avez déjà, en fait. J'ai déjà les 1 million d'euros sur mon compte. Il faut le proclamer. Il faut y croire. Il ne faut pas rigoler. Si vous rigolez, déjà, vous arrêtez là, hein, c'est fini. Dites-le, ça c'est le numéro 1. Faites-le, donc il faut toujours une action qui montre que, voilà, comme je sais que j'ai 1 million d'euros sur mon compte, je peux bien donner 100 000 euros au serviteur de Dieu. Je le mets en action, d'accord ? Le troisième, c'est recevez-le, parce que comme vous l'avez fait, le Seigneur, il est obligé de répondre. Et je pèse mes mots, hein, il est obligé de répondre. Si vous lisez leurs écrits, il ne peut pas ne pas répondre, en fait. Vous liez Dieu quelque part. Parce que vous appliquez ça, c'est les règles qu'il a établies, et il ne va pas aller contre ces règles. Donc il va obéir, il va le faire. On ne connaît pas le même Dieu, je pense. Hein. Et racontez-le, bien sûr, c'est le témoignage pour que d'autres puissent donner aussi et que ça puisse faire un grand mouvement. Alors, le quatrième point, je ne le vois pas dans le texte de Marc 11. Les autres, on voit vaguement, mais vous comprenez comme moi que l'idée de Marc 11, ce n'est pas ça du tout, en fait. Hein. Il y a effectivement un côté, il ne faut pas douter. Mais ça, c'est normal. On demande et on croit, on espère que Dieu il va répondre. Si vous priez et que vous dites, en même temps, je ne sais même pas s'il va répondre, j'en sais rien. Ça rend l'exaucement un peu aléatoire, effectivement. Ça n'empêche pas Dieu d'agir, pour autant. Il y a des gens qui ne croient pas en lui et qui sont exaucés. Parce que Dieu, il veut les bouger, parce qu'il veut leur parler. Il n'y a pas de règles, en fait. C'est ça, le truc. Là, quand on voit la prospérité, c'est beaucoup de règles, de lois et de mécaniques, en fait. Et on voit qu'il n'y a pas le Saint-Esprit derrière, parce que dans le Saint-Esprit, il y a la liberté. Il y a la liberté de faire d'une manière ou d'une autre, au Seigneur de répondre, de ne pas répondre. Et voilà. Et c'est lui qui sait, en fait. Une des règles, si on veut obtenir ce qu'on demande, parce qu'on va quand même regarder ce que nous dit la Bible, hein, quand on nous dit qu'il faut juste faire ces règles-là, et puis voilà. Je crois que la règle la numéro une, c'est de prier selon sa volonté. Ça, c'est assez clair dans la parole. Jean 5, versets 14 à 15. « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, ou quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Vous voyez, on reconnaît un peu le vocabulaire de la prospérité là-dedans. Mais l'idée n'est pas du tout la même parce que c'est selon sa volonté. Et quand on lui fait confiance, on sait qu'il répond et donc on sait qu'il n'y aura pas de soucis. mais c'est selon sa volonté. C'est ça les deux petits mots qui changent tout en fait là-dedans. Dans la prière de Jésus, on reconnaît ça aussi. Hein. Même lui, on pourrait dire lui, il pouvait déclarer tout ce qu'il voulait et il obtenait tout ce qu'il voulait. Il dit ça, il enseigne notre Père aux disciples et il dit « Voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Quand vous priez, que ta volonté soit faite. On revient à « selon sa volonté ». Et quand Jésus, ouais, j'ai un peu anticipé, quand Jésus, il est dans le jardin de Gethsémané, il prie. Et qu'est-ce qu'il prie? C'est Matthieu 26. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, vous voyez qu'on n'est pas loin, hein, s'il est possible, si c'est ta volonté, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus lui-même, il s'est soumis à la volonté du Père. Et il a été exaucé. On lui dit qu'il a été exaucé par son obéissance. Jacques 4. Vous voyez, quand on épluche des passages comme ça, on se rend compte que interpréter Marc 11 comme ça, ça colle avec rien d'autre dans la parole, en fait. Il n'y a pas une règle dans la parole qui nous dit « Si tu veux obtenir quelque chose, Seigneur, il faut faire ça, ça, ça et ça, dans cet ordre-là, et voilà, après, il va forcément te répondre. » Il y a des indices, comme prier selon sa volonté, et le deuxième qu'on verra juste après. Jacques, chapitre 4, versets 3 et 4. « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Vous voyez, là, le texte tout à l'heure, ça disait « Vous aurez ce que vous avez besoin. » Ouais, le jet privé, les villas et tout ça, à plusieurs millions ou dizaines de millions, je suis pas sûr qu'on est dans le besoin, là. Hein. Les nombres de voitures de luxe, forcément, c'est pas une AX ou une 207. On n'est pas dans le besoin, en fait, on est dans la passion. Et là, Jacques, il dit, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui aime toutes ses richesses, là, il se trompe parce que du coup, il devient ennemi de Dieu. On ne peut pas être ami des deux. On ne peut pas servir Mammon et Dieu en même temps. La deuxième règle, je pense, alors c'est pareil, je ne veux pas en faire un systématique, hein, sinon je me trompe aussi. Mais voilà, dans les indices, si on veut que le Seigneur nous réponde, il y a prier selon sa volonté. Et le deux, c'est lui obéir en fait. Et ce n'est pas lui obéir justement pour obtenir quelque chose. On y revient, hein. Ce n'est pas encore un système. Mais c'est juste le suivre, le servir, lui obéir. Et en fait, les choses vont aller dans le plan de Dieu et il va répondre, il va nous communiquer son plan et on pourra prier selon son plan aussi en fait. Parce que si on veut prier selon sa volonté, il faut la connaître sa volonté. Donc il faut continuer à lui obéir et qu'il nous révèle sa volonté. Quelques versets, je ne vais pas tous les développer, hein, mais ils sont assez facilement compréhensibles en fait. 1 Jean 3, verset 22, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Est-ce que Jean, il a été riche, qui a eu beaucoup de succès, qui était en bonne santé? Non. Hein, on a déjà fait la liste, tous les apôtres, même les pères de l'Église, ils sont morts dans des conditions assez compliquées, ils n'ont jamais été riches. D'accord, il y a peut-être eu quelques toutes petites exceptions de gens qui étaient bien placés et utilisés par Dieu, mais la plupart, ils sont morts dans la misère et ou dans l'oubli. Donc on est loin du succès. Et donc quand Jean il nous dit « si quoi que ce soit que vous demandez, vous allez le recevoir », c'est encore une fois pas les richesses en fait. Hein. C'est ce que vous demandez, sous-entendu selon sa volonté en fait. Hein. Tout ce qui va dans son plan, vous allez le recevoir, il n'y a pas de souci. Jacques 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » J'ai souligné du juste parce que c'est ça la clé ici en fait. Hein. Quand on veut prier, on doit être juste aux yeux de Dieu. Alors, personne n'a la prétention, j'espère ici, de dire « moi je suis juste ». Mais en fait, on est justifié par Dieu, on est rendu juste par son sang à lui en fait. Et lui couvre nos péchés. C'est en ce sens-là qu'on peut être juste. Sinon, on sait bien qu'on est... On est soumis au péché naturellement, mais le Saint-Esprit nous en libère, il nous rend juste. Le psaume 66, verset 18. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » C'est très clair, très simple. Hein. Voilà. Donc tout ça, quand on dit prier selon sa volonté, lui obéir, ça enlève rien à la souveraineté de Dieu en fait. Il règne, on l'a dit tout à l'heure, hein, il règne, ce qu'il a décidé, ce qu'il a déclaré, ça va s'exécuter. Lui, il a ce pouvoir-là en fait, que nous on n'a pas. Et à nouveau, il ne faut pas inverser la règle, se dire que bah, si j'obéis à Dieu, je vais obtenir tout ce que je veux. Ce n'est pas un truc pour obtenir en fait. Dieu n'est pas notre serviteur. Parce que dans la prospérité, on en arrive à ça en fait. Dieu, c'est mon serviteur. Pascal, il donne souvent cette idée de je mets une pièce, j'ai ma bénédiction et j'ai quelque chose en bas, à la sortie de la machine. Et Dieu n'est pas notre serviteur, c'est nous qui sommes ses serviteurs en fait. C'est pour ça qu'on doit prier selon sa volonté, parce que lui, c'est le maître. Et lui, c'est lui qui a le plan et qui décide de ce qui doit être fait. La prière telle que nous, on le comprend dans la parole, c'est une relation vivante avec Dieu. Quand on a cette relation, en fait, c'est comme dans un couple, c'est comme avec n'importe qui, en fait. Hein. Quand on a une relation avec quelqu'un d'amour, d'amitié, d'amour, on peut laisser le mot amour pour tout le monde, en fait, c'est pas qu'un couple. Hein. On donne à la personne ce qu'elle demande par amour, en fait. Et elle va pas demander n'importe quoi, parce qu'elle nous aime, justement. Donc ça va dans les deux sens. Enfin, l'amour des deux fait que ça va dans le bon sens et que ça répond au projet qui est commun. Et le projet, il est commun uniquement si nous, on s'inscrit dans celui de Dieu. Lui, il va pas dévier, en fait, il changera pas. Quand on désobéit, on coupe un peu cette relation en fait. Hein. Et donc c'est pour ça que derrière, on a du mal à discerner sa volonté. En fait, si on ne parle plus avec une personne, bah, on a du mal à savoir ce qu'il veut. Au début, on la connaît, c'est tout. Mais avec le temps, voilà, si deux personnes se séparent, avec le temps, ils sauront plus ce que l'autre il veut, comment il est. Mais il faut maintenir cette relation pour continuer à comprendre ce que Dieu veut au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure des événements. Et alors, il nous communique sa volonté. Ce passage de Marc 11, il dit simplement qu'il ne faut pas douter. Ça, c'est répété ailleurs. On trouve effectivement d'autres versets qui disent ça. Je prends juste Jacques, c'est ça, chapitre 1, je vais dire chapitre 5, mais non. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà, cet aspect-là, il faut maintenir quand même que c'est important de ne pas douter. Dieu peut répondre quand même, au-delà de nos doutes. Hein. Mais quand même, l'idée, si on a une relation avec quelqu'un, c'est de lui faire confiance. Ça n'empêche pas l'autre de nous répondre, mais ce n'est pas ça qu'il veut en fait. Le principal avec Dieu, c'est la relation en fait. Ce n'est pas ce qu'on peut en obtenir ou ce que lui peut obtenir de nous. Il veut faire cette relation depuis le début avec l'homme. Un autre prédicateur de la prospérité, T.D. Jakes, qui dit « Quand vous avez planté votre semence, votre don d'argent, c'est lui qui le dit, ce n'est pas moi qui mets, hein, votre prière sert à réclamer la moisson promise. Sans cette prière de foi, la moisson reste dans le monde spirituel. Vous devez la prier pour la matérialiser. » Et on est exactement dans Hébreux 11, 1 en fait. Hein. La foi, c'est la substance des choses. Et donc, ça amène à la réalité des choses qui sont spirituelles. Voilà. Je pense qu'on a bien tourné sur la question. Vous voyez, quand on le voit, nous, ça nous choque. Hein. Normalement, ça nous choque vite. Ça, c'est assez évident, c'est grossier. Hein, parce qu'on le lit, on comprend tout de suite qu'il y a erreur. Mais c'est des fois un peu plus subtil que ça, en fait. Et c'est pour ça que j'insiste sur toutes ces choses au niveau de la prospérité, qu'on puisse le détecter rapidement. Et si on entend ça dans la bouche de quelqu'un, se dire « Ouf, attention, attention, ça glisse, ça va à un endroit qui n'est pas bon. » La foi qui est prêchée par la doctrine de prospérité, ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas la même que celle qu'on lit dans la parole. Ce n'est pas cette relation avec Dieu qui n'est pas là pour obtenir quelque chose, qui est là pour la relation avec Dieu. En fait, elle est là pour elle-même. D'accord ? La prospérité, elle utilise la foi pour obtenir ce qu'elle veut. Et ça sert juste quelques personnes, en fait, hein, qui s'enrichissent sur le dos des autres. La doctrine de la prospérité, elle affirme qu'on peut avoir tout ce qu'on veut, là et maintenant. La parole de Dieu, elle dit que la foi, c'est une confiance en Dieu pour maintenant et pour le futur. Il y a encore des nombreuses bénédictions qui sont à venir, des prophéties qui ne sont pas encore accomplies, certains événements qui arrivent dans le futur. Voilà, tout n'est pas terminé, tout n'est pas accompli. Et pourtant, Jésus, il est mort sur la croix, il a dit, tout est accompli. L'œuvre du salut, elle était accomplie à ce moment-là. Et il a commencé quelque part à régner aussi. Il y a tout un tas de choses. Ça se mélange dans nos têtes, hein, parce qu'on a du mal à faire le tri entre les deux. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a, attention, tout n'est pas maintenant, tout de suite, en fait, dans la parole. Je pense qu'il faut juste garder ça en tête et après, quand on lit un texte, de ne pas se l'attribuer. C'est-à-dire, bah oui, c'est une promesse, je la prends et je me l'attribue. Il y a des choses qui vont arriver plus tard, il faut le savoir. Je pense que tout ça, en fait, ça pose la question fondamentale derrière de pourquoi on est chrétien. Est-ce que c'est pour obtenir quelque chose? Ou est-ce que c'est justement pour cette relation avec Dieu? Est-ce que c'est pour obtenir quelque chose ou est-ce que c'est pour donner quelque chose à Dieu? Et dans la parole, ce qu'on lit, c'est que Dieu, il donne, il donne, il donne, il donne. Quand on voit Paul, il a donné toute sa vie à son ministère. Quand on voit d'autres, en fait, hein, il y a des tas d'exemples dans la parole et dans notre monde de gens qui se donnent complètement pour Dieu parce qu'ils ont compris qu'il est comme ça et ils veulent lui ressembler. C'est à l'opposé complet de la prospérité. Ce n'est pas une utilisation de la foi pour récupérer des choses, mais pour tout donner, se dire plus tard, le Seigneur y donnera, et je le sais, j'en ai la certitude. Est-ce que vous aussi, vous en avez cette certitude? Je vais prier pour finir. Seigneur, merci de nous avoir donné ta parole. Merci de ce qu'on peut réfuter, ces affirmations, Seigneur. Merci de cette relation que tu veux établir avec nous, Seigneur. Merci de ce que tu donnes, effectivement. Tu donnes, tu as donné sans compter au travers de ton Fils et tu continues à donner, Seigneur, même si ça pourrait déjà être largement suffisant. Mais tu as dans ta personnalité, dans ta personne, dans ton être, de donner, Seigneur. Et Seigneur, je te remercie pour ça. Je te prie que tu nous transformes à ton image. Seigneur, à pas avoir la foi pour obtenir quelque chose, à chercher à te manipuler, à avoir des systèmes, Seigneur, des mécaniques pour obtenir des choses, mais vraiment être juste attentif à ta volonté, t'obéir et voir ce que toi tu veux faire et nous inscrire dans ton plan. Seigneur, c'est des grands mots, des grandes idées, mais je te prie que tu les inscrives dans nos cœurs et que ça devienne un moteur pour nous, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous avons tous des défauts, des ratés, Seigneur, mais nous voulons continuer à progresser vers toi. Seigneur, comme ça l'a été dit tout à l'heure, dans la présentation, nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te contempler, nous voulons te glorifier. Amen.